19h-20h, les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Bonjour chers amis auditeurs, quel plaisir de vous retrouver et quel plaisir aussi de partager ce moment avec vous quotidiennement. Les informés, c'est une grande famille qui pousse et qui commence à prendre une grande forme. Hein ? Allez, c'est parti, on commente, on analyse et on décrypte l'actualité, chers amis auditeurs et auditrices partout en France. D'abord, vous êtes prioritaire au 01 53 48 3000, vous nous appelez et vous savez que vous passez à tout moment, hein, vous, la petite clochette que vous allez entendre, cette clochette vous permettra évidemment d'être prioritaire. Nous reviendrons sur Gabriel Attal, finalement, sur à la fois, vous savez, ce discours à l'Assemblée nationale qui est très critiqué, très polémiqué, mais surtout, que retenir de ce discours et que peut-on dire, puisque beaucoup considèrent qu'il n'y a pas guère de grands changements. On reviendra aussi, vous savez quoi, sur les agriculteurs qui sont toujours en colère et qui continuent de bloquer Paris et puis la France qui est complètement paralysée. Alors, est-ce qu'il y a, et puis surtout, on reviendra aussi, vous savez, avec cette altercation à la fois avec la police et les agriculteurs. Nous nous attarderons évidemment suffisamment tout à l'heure pour comprendre ce qui se passe, parce que figurez-vous que les agriculteurs ont franchi la ligne de Rungis. Oui, figurez-vous. Le gouvernement Attal, vous savez, revoilà la menace d'une motion de censure des députés LR. Alors, eh bien oui, cette motion de censure, elle est présente plus que jamais, mais surtout, le 49.3, certainement, peut-être, est-il toujours d'actualité. La polémique de la ministre de l'Éducation nationale. Oui, la polémique d'Oudéa Castéra. Aïe. Elle prend des coups, et elle continue de prendre des coups. Sauf que la ministre, vous savez ce qu'elle dit ? Elle accuse ses détracteurs de faire d'elle le symbole d'une caste privilégiée à abattre. Bon, clochette ? 01 53 48 3000, vous nous appelez quand vous voulez, vous êtes prioritaire. Et puis le quoi de neuf tout à l'heure, en toute fin d'émission à 19h50, avec le docteur Majid Seoussine qui viendra nous livrer son regard sur l'actualité et son billet d'humeur. C'est parti, c'est tout de suite, c'est maintenant. Et en toute liberté d'expression.
Les informés, le face-à-face.
Le face-à-face avec Nadir Kaya qui est le président de Banlieue Plus. Bonjour Nadir Kaya.
Bonjour Adil, bonjour.
Tirez le micro vers vous.
Bonjour Adil, bonjour à tous.
Qui sort d'une séance de boxe.
Pas aujourd'hui, mais ouais. Oui.
Il ne faut pas s'embrouiller avec lui. Hein.
Non, pourquoi ?
On est Philippe... sparring partner.
Ouais, c'est ça. Emmanuel Dupuis, tiens, le président de l'IPSE. Comment
ouais,
ça va, Ariel ?
Ça va très bien.
Comment tout va bien ?
Secrétaire national aussi. Des centristes ?
Oui, c'est vrai, des centristes.
Pas oublié.
Centre droit.
Ça monte.
Bah, lui, il monte toujours. Hein.
Non, mais c'est bien.
Oui, il monte toujours. Ouais.
Et les surprises dans quelques jours ?
Les européennes ?
Je sais pas. Des surprises, si. En tout cas.
Bah, si, les européennes. Arrêtez avec les surprises.
Il n'y a pas que les européennes ?
Ben, il y a quoi d'autre ?
Il y a le Sud.
Le Sud, qu'ils voulaient faire dans le Sud ?
Continent africain, c'est pas important ?
Ah oui, c'est vrai, c'est bien sûr. C'est très vrai. Important.
Le déploiement.
Ah, vous êtes au courant, Agile, voyons. Bah, vous faites pas votre cajotier. Si, on ne dit rien pour l'instant.
Vous pouvez le dire.
Non, on ne dit rien pour l'instant. On reviendra.
Bon, pourquoi ? Parce que c'est pas officiel.
On en reparlera.
Il y a un coup d'État qui se prépare en Afrique.
Je crois que c'est ça, il se prépare un coup d'État.
Cochette.
Le mec, il est en train de s'emparer d'un état, on ne sait pas lequel, mais la Guinée équatoriale, tiens. C'est bien là-bas, la Guinée. Il y a de l'argent en Guinée équatoriale, vous savez. Vous avez vu le vice-président en ce moment ? Il y a quelques petits soucis, là, le vice-président, le fils.
Ah, le fils, ou bien, Théodoro,
ouais.
Oui.
Ouais.
Théodoro, mais bon, il est sous la.
Hein, il est sous une menace, là. Hein.
Bah, il est, oui, enfin, le père aussi. Hein, je rappelle
le père, mais le fils, là, en ce moment,
il est.
Bien
malaki, lui pendonné. Aïe.
J'ai lu la presse, là, en ce moment, là, Le Monde, notamment. J'ai vu qu'on parlait de lui. Je dis, le revoici.
C'est pour ça qu'il n'est pas venu en France.
C'est pour ça qu'il n'est pas venu en France. Et je peux vous dire que s'il vient en France, à mon avis, il risque de vivre quelques heures un peu sombres. Hein.
Et pourtant, il a demandé d'arrêt international contre lui, donc a priori, il serait arrêté.
Ouais, bah ouais, faut voir la vie quotidienne qui mène. Hein.
C'est tellement facile pour les Africains, les mandats internationaux.
Ouais.
Internationaux.
Bon, c'est un sujet. Il y a certains,
on a du mal. Hein. Ouais, pour les Africains, ça, c'est délivré très rapidement. Hein. Il y a vraiment.
Ouais. Philippe Ladjiboyaki, bonjour.
Bonjour.
Comment ça va bien ?
Bah écoute, ça va très très bien.
J'allais dire le vice-président du conseil régional, mais non.
Non, pas encore.
Ça monte très vite.
Démicheur de talent.
Non, mais le mérite.
Conseiller, il le mérite, c'est ça ?
Oui. Ouais.
Merci, je crois que c'est pas. Il est pas loin, je vous jure qu'il est pas loin. Vu comment il se rapproche tout doucement de Pécresse, lui, il va. Je vous dis, il est porte-parole, il est co-porte-parole
de
l'écologie au centre. Hein.
Politiquement, il va apporter beaucoup.
Mais croyez-moi qu'il va finir chez les LR.
Non, je suis très très bien à l'écologie au centre.
Ouais, si.
Par contre, on peut discuter avec des LR, on peut discuter avec
un
des
ministère.
PS, on peut discuter avec des modems, on ne discute pas à l'écologie au centre avec l'extrême droite.
On peut discuter avec tout le monde, ouais.
Voilà.
D'abord, je vous prie de m'excuser, Sabrina Nouri.
Oui, je...
J'aurais dû commencer.
J'attends quoi. Exactement. Alors là, mille excuses, Sabrina. Parce que j'aurais dû commencer par vous. Oui. Seule femme. La patronne de diplomatie féminine. Hein.
Ouais. Ouais, c'est elle,
Ouais, hein. Et les filles aussi, notamment. Parce que c'est le
très sympathisante.
Porte-voix de Mélenchon.
Porte-voix, non, mais en tout cas, très sympathisante. Oh,
vous l'avez grave défendu ici. Hein.
Ah, bah oui, pendant l'élection présidentielle, évidemment.
Vous avez pris des coups. Hein.
Bah, c'est pas grave, c'est pas grave. On a terminé à 22%, c'était très bien aussi.
Ouais, c'est vrai.
On monte.
Ah, bah justement, il y en a un qui prend des coups, et alors qu'il est à peine nommé Premier ministre, c'est Gabriel Attal. Gabriel Attal, alors on peut revenir un petit peu sur son discours, et puis surtout, aujourd'hui, vous avez vu, hein, au lendemain de son discours à l'Assemblée nationale, d'accord, qui a été apprécié par d'un côté, taclé de l'autre, mais cela dit, ça chauffe chez les agriculteurs. Emmanuel Dupuis.
Bon, déjà, il y a deux choses. Hein. Un discours de politique générale n'est pas forcément séquencé par rapport à la conjoncture particulièrement douloureuse et difficile, me semble-t-il inextricable, auquel fait face le gouvernement.
Oui.
Le discours de politique générale est un discours qui n'a pas un grand intérêt, puisque le président lui avait volé la vedette quelques jours auparavant en déclamant qu'elle serait aussi sa feuille de route. Le discours de politique générale de Gabriel Attal était assez insipide, finalement.
Ah bon ?
Premièrement, parce que... parce qu'il n'a fait que dire toutes les stratégies que le gouvernement a tenté péniblement de mettre en place avant le remaniement et qu'il souhaitera mettre en place après le remaniement, qui, je vous rappelle, n'est pas complet, puisqu'il n'y a toujours que la moitié du gouvernement qui est en fonction. Ça fait un mois qu'on attend la nomination de ministères importants. Il n'y a toujours pas de ministère de la Santé. Pas de ministre de la Santé. Il n'y a toujours pas de ministre des Transports. On a un ministre bicéphale qui fait d'un côté du sport et d'un côté éducation, alors que c'est, me semble-t-il, un ministère de plein exercice. Donc, ce que j'ai, moi, entendu en écoutant et le discours de politique générale à l'Assemblée et la lecture qui en a été faite aujourd'hui au Sénat, bon, c'est une politique qui ne change pas de cap, qui ne change pas d'orientation. On a un peu changé les protagonistes, qui ne sont plus les mêmes. On a repopulisé le gouvernement. Donc, Macron fait ça régulièrement, avec Roselyne Bachelot, avec Dupond-Moretti, aujourd'hui avec Rachida Dati, sans qu'il y ait des caps politiques qui soient différents. Et c'est ça, principalement, le problème. Moi, je ne crois pas du tout à l'idée que Gabriel Attal change la politique qu'a voulu le président. Au contraire, il n'est que dans la continuation de cette politique. Donc, de ce point de vue, rien de nouveau à la tribune de l'Assemblée. Par contre, ce qui est nouveau, c'est la capacité ou non de s'opposer par le biais des outils démocratiques que sont la motion de censure. Attendons quelques heures pour voir si
Sabrina Nouri si on va faire un tour de table.
Capacité de la proposer.
Faisons un tour de table justement. Bah,
moi, ce que j'ai vu hier dans le discours de Gabriel Attal, c'est que ce n'est pas un Premier ministre, c'est un porte-parole, le porte-parole de Macron.
C'est méchant de dire ça.
Bah non, c'est pas méchant, c'est un peu la réalité.
Il a fait débrouillé quand même.
Enfin, débrouillé, ou si vous le dites. Hein, c'est un peu caricatural, là, ce que vous dites. Mais en tout cas, il y a eu un alignement de propositions.
Il n'a pas changé de costume.
Réactionnaire. C'est un discours réactionnaire. La casse du code du travail.
La casse.
Des acquis sociaux. Bref, on a eu un florilège de politiques d'austérité qui va arriver sur les Français dans les mois à venir. Voilà, c'est effectivement la continuité de la politique Macron. Je pense qu'il faut démacroniser la France. C'est un message que je lance à l'ensemble des...
Démacroniser la France, absolument.
Je pense que les Françaises et les Français...
Clochette.
Non, pas de clochette.
Démacroniser la France.
C'est tout à fait la réalité. Mais je pense que ce qui se passe avec les agriculteurs aujourd'hui, c'est un peu la réalité de ce qui se passe aux affaires. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune écoute.
On vous a communiqué les éléments de langage ?
Absolument pas. Je pense que c'est ce qui est vraiment ressorti du discours de politique générale hier. Je peux vous faire la liste. On peut parler de la loi SRU qui a complètement détricoté. Il n'y aura plus de logements sociaux dans ce pays dans les prochaines années, puisqu'on va avoir des logements intermédiaires qui ne seront pas accessibles à une bonne partie de la population. Et on peut continuer comme ça sur toutes les mesures qu'il a énoncées hier. Donc moi, moi, je ne vois pas où est le côté positif de son discours. Il a été même méprisant à l'égard de d'une certaine catégorie de jeunes de notre pays. Moi, je pense vraiment que c'était pas que c'était pas à la hauteur de l'enjeu et à la hauteur de ce que les Français attendaient, et notamment les agriculteurs qui voyaient bien. Aujourd'hui. Oui. Non seulement ils continuent, oui. ils ont intensifié ouais, et ouais. ils se rapprochent de plus en plus de Paris parce qu'il n'y a eu aucune proposition à leur égard.
Si. 15 personnes en garde à vue. Hein.
Oui, oui. Bah,
entrave à la circulation.
Oui, oui, mais en tout cas, sur le libre-échange, il n'y a eu aucune proposition. Et je pense que Sabrina, c'est le cœur de leur revendication.
Je vous sens remonter, vous avez raison. Je ne suis pas surpris du tout, évidemment. On connaît les insoumis.
Non, c'est pas une question d'insoumis, c'est une question de réalité, de politique qui est mise en place. Et voilà, on dit les choses calmement.
Absolument, vous avez bien raison. Alors, justement, dans l'ordre.
Si je peux me permettre, c'est compliqué, je suis entouré de femmes et d'hommes politiques autour de moi. Bon, c'est bien, mais on se rejoint un petit peu sur.
Je suis quand même président d'une association, hein. Je suis pas politique.
Quand on est président d'association, on fait de la politique.
C'est pas un statut qui limite.
Non, je fais pas de la politique, mais.
On a le droit d'avoir des avis.
Des femmes et des hommes qui sont politisés. Moi, je suis un simple citoyen, peut-être avec un avis politique parfois.
Mais nous aussi.
Oui, mais vous êtes aussi politisé, engagé pour un parti, non ?
Oui, mais le fait de l'engagement n'augure pas du discours.
C'est pas un reproche.
Je ne crois pas avoir lu.
C'est pas un reproche. C'était juste. Non, c'est un constat parce que
dommage de classifier les gens. C'est pas parce qu'on est politisé qu'on peut pas avoir un discours rationnel. Je m'oblige dans tous les médias et dans tous les plateaux à être non pas dogmatique. Mais être pédagogue, je crois l'avoir été. Pour ça que j'ai du mal à concevoir.
Vous n'êtes pas dogmatique.
Je pense que tu l'es un petit peu quand même.
Ah bon ?
Ah bah quand
dans
on fait un peu. Il y a des bases sur lesquelles on le sent. Quand déjà on s'engage pour un parti, on a un certain dogme à défendre.
Ah,
après que tu sois pédagogue, bah, c'est un plus, c'est très bien. Moi je voulais simplement dire, c'était pas un reproche, hein, donc je vais essayer de revenir sur ce que je voulais dire. C'est pas méchant, hein, c'est pour dire que je suis responsable associatif et que j'ai un regard un peu plus basique, mais qui va dans votre sens. C'est-à-dire que je n'attends pas grand-chose de Monsieur Attal, pas du fait qu'il soit jeune. Ça a été dit, hein, il a été porte-parole de Macron. Aujourd'hui, il porte encore la parole de Macron, mais d'une façon différente, avec une responsabilité qui est celle d'un Premier ministre. Mais il est comme Macron, c'est-à-dire que le discours peut être entendable par beaucoup de gens. Et c'est très malin en politique d'avoir des discours qui vont plaire à une opinion de droite ou de droite extrême, mais aussi à de gauche. Quand on parle de social, on fait croire qu'on fait aussi du social. Il a fait du Moretti aussi avec sa petite phrase, celui qui casse répare, celui qui salit c'est nettoie
bien.
C'est du Moretti, ça.
C'est bien.
Mais ça veut rien dire en fin de compte. Si. Ça ne veut rien dire.
On marque une pause.
Et qui commence par eux.
Parce que quand on fait de l'évasion fiscale, c'est sûr qu'on répare pas.
Ou de la casse sociale, moi j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'ils vont réparer sur la casse sociale qu'ils ont fait en France.
Qui me fait signe, donc il faut qu'on lance la pause.
Je coupe.
Ouais, et j'espère
que. Je m'arrête.
Non, mais c'est bien, ça tombe bien, parce qu'il y a Philippe Nadi-Boriaki qui n'est pas d'accord du tout avec certains points de vue. Mais c'est bien, il faut aussi, évidemment, d'autres points de vue et d'autres sons de cloche. A tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous.
Les informés reviennent dans un instant, 19h-20h. Les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Les informés avec Sabrina Nouri, avec Emmanuel Dupuis, avec Nadir Kaya et enfin avec Philippe Nadji-Boriaki. Je vous redonne la parole, Nadir Kaya, puisque vous avez été interrompu à la fois par la pause. Et puis il y en a un qui a dégainé, c'est Philippe Nadji-Boriaki. Non, attendez, qui a qu'une envie, c'est de vous répondre à tous là. Justement.
Très bien. Non, mais moi, je voulais juste finir en disant que Attal a un discours macroniste, c'est-à-dire qu'il a un discours qui va plaire l'opinion de droite et de droite extrême comme celle de gauche.
Il est nommé pour ça.
Non, mais aujourd'hui, on a besoin, comme disait Emmanuel, d'un cap, d'avoir un cap clair sur des actions. Macron, il est là, on est dans son deuxième mandat. Quand on voit un petit peu le traitement du sujet des agriculteurs, moi, franchement, je pense qu'il laisse pourrir la situation et il veut pas régler la situation parce que quand on voit aussi les mesures qui ont été faites, ça a l'air sympathique de faire croire qu'on va simplifier les démarches administratives de certains agriculteurs, mais on n'est pas dans le fond sur la concurrence déloyale que le gouvernement soutient. Et ça, c'est un vrai problème. Et la capacité du gouvernement Macron à faire plier l'Europe par rapport aux exigences françaises. Et ça va poser un vrai problème. Donc le discours d'Attal, c'est un discours macroniste qui va rien apporter parce que c'est pas un gouvernement courageux capable d'aller dans le fond des problèmes.
C'est son Premier ministre, Nadir Kaya.
Mais peu importe.
Le président.
Madame Borne, qui
attendez,
était un peu plus âgée.
Je comprends pas, le Premier ministre, c'est pas celui qui doit indiquer la politique.
Mettre en œuvre la politique, le cap du président.
C'est normal.
Mais
oui.
Ça n'a pas l'air clair
non,
dans son discours. Donc faire des petites phrases avec des petits mots.
Philippe, Sabrina a raison, c'est pas au président. C'est au Premier ministre de l'exécuter.
Tout à fait.
Philippe Nadjibouyaki.
Président de tout faire.
Philippe Nadjibouyaki. Philippe
Nadjibouyaki. Dans ce monde morose, d'abord, moi j'ai un coup de cœur à dire. Je voudrais féliciter la Confédération française de Jiu-Jitsu brésilien. Qui a co-organisé, pardon, avec l'IBJF, c'est l'International Brazilian Jiu-Jitsu Federation, les championnats d'Europe de Jiu-Jitsu brésilien. À Paris, ça a été juste un succès extraordinaire. 5300, bien sûr, j'y étais trois fois. 5300 participants sur 7 jours. Franchement, ça a juste été extraordinaire, ça a été magnifique. Et personne n'a parlé dans les médias. Je le regrette énormément. Je voudrais à nouveau.
Oui, parce que c'est pas populaire.
Mais c'est très populaire. Il y a 25 000 adhérents en l'espace de 3 ans.
C'est énorme dans les villes populaires depuis des années.
Une fois que ça s'est dit, que ça a détendu tout le monde, parce que je vous assure que ça détend tout le monde.
Ça canalise.
Revenons à nos moutons.
Alors,
le discours de Gabriel Attal,
qu'est-ce qu'on
peut attendre d'un Premier ministre qui est censé mettre en application la politique du président de la République ? Rien de nouveau sous le soleil, sauf une empreinte ou une marque un petit peu différente. Et on la sent un petit peu plus punchy, on la sent un petit peu plus énergétique. Peut-être que c'est dû au jeune âge de Gabriel Attal. Moi, il y a des choses qui m'ont parlé, qui ont été frappantes. Désolé. C'est peut-être des éléments de langage, mais quand tu casses, répares. Parce que moi, je pense toujours à la personne qui a été victime, la personne à qui on a brûlé sa voiture. Il s'adresse à la France entière.
Vous allez lui répondre.
Les parents ne sont pas censés éduquer leurs enfants comme ça. On n'est pas des enfants.
Quand tu salis, tu nettoies. Oui, on n'est pas des enfants. Il y a certains adultes qui se comportent encore pire que les enfants.
Mais est-ce qu'on a besoin de l'entendre de la part d'un Premier ministre aujourd'hui ?
Oui, parce qu'on l'entend jamais. Il y a une France qui souffre, il y a une France qui en a marre, il y en a une France qui en a ras-le-bol.
C'est une réalité.
Et cette France-là, elle craque et elle finit par voter Front National.
Quand il dit ça, il s'adresse à qui ?
Il s'adresse à la France.
Il évoque les quartiers populaires pour faire plaisir à l'opinion d'extrême droite en disant : écoutez, ça casse. La preuve, pendant la situation avec les agriculteurs. Ils font le parallèle avec les émeutes.
Arrêtez ce dogmatisme d'extrême gauche qui
utilise
qui paternalise des gens et qui aime les laisser dans leurs souliers et surtout qui n'évoluent pas.
C'est pas
il y en a
cas.
Marre.
Philippe,
quand
tu habites
dans un quartier populaire, je suis désolé.
Pourquoi
parce que j'y viens.
Pourquoi on parle des quartiers populaires ?
Parce que moi j'en parle, parce que
j'y viens.
C'est la chose que je connais le mieux. Je ne vais pas interrompre. Oui, c'est le problème démocratique.
La répression, ça ne marche pas.
Je suis en train de dire la chose suivante.
Ça ne marche pas, la répression.
Mais non, on a raison. On va tout leur laisser. Qui casse, qui brûle, qui nous pourrisse la vie. Et c'est nous qui
subissons. Ils ont cassé le service public, ils vont le réparer. Ils ont cassé le service public. Est-ce qu'ils vont le réparer ? Ils ont cassé le service public. Est-ce qu'ils vont le réparer ? Est-ce qu'ils vont réparer le service public ?
Sabrina, tu ne vis plus dans un quartier populaire. Moi, j'habite dans une ville populaire où il y a 50%.
Quelle est la différence ?
Parce que moi, j'y vis, j'en parle et donc j'ai une certaine.
Alors, parce que toi, tu y vis. Moi, j'y ai grandi, donc j'ai plus le droit d'en parler. Non, je suis pas d'accord avec toi. Mais je suis pas d'accord avec toi.
Non,
ça ne veut absolument rien dire.
Je dis que les gens, ils en marrent. Moi, je les connais au quotidien.
Ça, Philippe, on l'entend.
Macron a cassé le service public. Est-ce qu'ils vont le réparer ?
C'est pas le moment de dire ça aujourd'hui. Quand il dit ça, il détourne l'attention de la situation avec les agriculteurs.
Non, il n'a pas dit que ça. Il n'a pas dit que ça.
Il parle des quartiers populaires et de l'ordre. Mais il n'a pas dit que ça.
Il n'a pas dit que ça.
On vit dans les quartiers. On veut de l'ordre. On veut de la justice. Mais de la justice sociale.
On l'a pas.
On veut aussi de l'équité.
Non, on l'a pas.
On veut stopper les discriminations.
On l'a pas.
Sur certains aspects, on n'a pas.
On n'a rien de tout ça. On n'a ni justice sociale, ni justice tout court, ni sécurité.
Vous reconnaîtrez quand même une chose, c'est qu'il n'a pas fait référence à la politique de la ville.
Non, mais c'est son deuxième mandat. Il attend quoi ?
Attends.
Gabriel Attal, il l'a depuis 2017.
Que la politique de la ville va disparaître.
Mais pas du tout.
Mais il n'en a pas parlé.
Il n'en a pas parlé parce que le cap qui avait.
C'est pas une priorité pour
lui. La priorité aujourd'hui, c'est qu'on ouvre le frigo et qu'il soit plein. Ça, c'est la vraie. Le commun des mortels, c'est ce qu'il te dit.
Et
on y arrive, Sabrina, le chômage n'a jamais été aussi bas. On n'a rien
réindustrialisé
la France. Le chômage n'a jamais
été aussi bas. Il n'y a jamais eu autant de smicards.
Non.
Macron, c'est les smicards.
Macron, il smicardise la France.
Le problème de l'extrême gauche, c'est qu'il ne te laisse jamais terminer parce qu'il se
laisse le finir.
Du coup, le problème, il est là. Je suis un démocrate. Je ne suis pas en train de dire que la situation est idyllique et qu'elle est merveilleuse. Loin de là. Il y a beaucoup de travail à faire. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je suis surpris d'une opposition stérile. Je dis que l'opposition est intéressante lorsqu'elle apporte des éléments pour pouvoir transformer la société. Maintenant, oui, il y a beaucoup de smicards. C'est une réalité.
Bah oui.
Comme il en a toujours eu beaucoup de SMICA.
Non. Le mandat Macron,
c'est une machine à faire du SMIC.
A fait augmenter le nombre de SMICA. C'est bien beau de dire il y a de moins en moins de chômeurs, mais si c'est pour avoir des gens qui sont employés, puis on le voit, moi je le vois dans mon entreprise.
Qui
sont juste au SMIC, parce que c'est pour dire voilà, il était au chômage. Aujourd'hui c'est un SMICA. Faut pas être fier parce qu'aujourd'hui les gens n'arrivent pas à s'en sortir avec le SMIC. Le prix de l'essence, les loyers, l'électricité.
Mais c'est
aujourd'hui, donc on peut pas se satisfaire du fait qu'il y a une augmentation de SMICAR.
Donc on préfère qu'il y ait une augmentation de RMiste.
Non,
RSA, c'est mieux.
On peut en parler du RSA, les 15 heures gratuites, la travail.
C'est pas gratuit. Quand on te donne 550 euros par mois, mais attendez, c'est ça le paternalisme qui sont dans l'extrême gauche. C'est
d'où sort l'argent que vous fabriquez. Non, ça ne va pas du tout. Vous fabriquez ni l'autre.
Qu'est-ce que c'est de demander à quelqu'un de donner 2 heures par jour.
Les gens veulent travailler.
D'accord. Travailler, on va faire une chose très simple. On va partager le temps de travail à la France insoumise. Au prochain mandat, tous ceux qui sont élus, ils ne repartent pas et ils vont réélire de nouvelles personnes.
Alors là,
et
tu caricatures parce que ce n'est pas que partager le temps de travail, c'est aussi créer du travail.
On avance, messieurs, je reprends la main, nous allons avancer puisque nous allons parler de cette manifestation des agriculteurs en direct. En ce moment même, avec la police, quelques altercations entre la police et les agriculteurs d'un côté comme de l'autre. Emmanuel Dupuis, vous le suivez en ce moment même en direct. Effectivement, 15 personnes en garde à vue pour entrave à la circulation, des interpellations. Que peut-on dire évidemment de tout cela, Emmanuel Dupuis, et est-ce que le dossier va pouvoir avancer?
Premièrement, il y a une vraie question sur la forme et la manière dont le gouvernement traite cette crise. Alors le deux poids deux mesures, il n'est pas forcément entre les policiers et les agriculteurs. Il est entre la manière dont on a traité les gilets jaunes et la matière dont on traite les gilets verts. Là, il y a une grande différence, beaucoup de modération, beaucoup de volonté finalement de les laisser faire ce qu'on n'aurait évidemment pas laissé faire ou ce qu'on n'a pas laissé faire pendant la crise des gilets jaunes. Donc ça pose une vraie question sur le caractère démocratique de l'expression d'une colère. Une colère dite populaire, une colère de la base.
Légitime, populaire, donc légitime.
Et qui donc s'exprime. Là, il y a deux poids deux mesures.
Oui, parce que là, je vois le sous-titre d'une autre chaîne qui parle des deux poids, deux mesures entre les policiers et les agriculteurs. Je m'étonne du fait qu'on ne mette pas en perspective ces deux crises structurelles qui sont...
Gilets jaunes, gilets verts.
Qui sont évidemment venues de la part d'une population qui souffre d'un pouvoir d'achat qui est atrophié d'un côté, et d'agriculteurs qui souffrent du fait que le gouvernement n'a pas pris sa responsabilité par rapport à une politique agricole commune qu'on aurait dû déjà revisiter depuis des décennies. Je rappelle qu'elle remonte à 1965. On va revenir sur la dimension internationale. Et c'est peut-être là le problème. C'est que le gouvernement essaye d'étouffer une action sur laquelle il a peu de prise. J'entends le président Emmanuel Macron, encore aujourd'hui à Stockholm, rappeler la nécessité, comme il va le rappeler demain à Mme Ursula von der Leyen, d'arrêter la négociation avec le Mercosur. Je crois que c'est Nadir qui l'a dit. Mais voyons, la position française n'est pas du tout majoritaire sur cette histoire. Nous sommes un des pays, pays à vouloir bloquer tout de suite la négociation. D'autres sont quasiment dans la logique d'accélérer pour la ratification.
Donc, ça ne veut pas les stopper, les négociations, on sait les suspendre.
Alors, elles ne sont pas du tout suspendues, puisque le commissaire européen l'a rappelé aujourd'hui, en disant que ce n'est pas parce que la France veut qu'elle s'arrête qu'on arrête la négociation. Elles ont été retardées depuis 2013. Donc évidemment, et je rappelle que ce n'est pas les seuls accords de libre-échange qui sont stoppés. Donc de ce point de vue-là, assez malin et assez habile de la part du gouvernement Attal de dire que la France va défendre les agriculteurs en faisant un rapport de force à Bruxelles. Ce n'est pas vrai, et de toute façon, si c'était vrai, il n'obtiendrait pas gain de cause. Ensuite, sur les mesures. Alors, c'est des mesures qui sont des mesures, qui plastronnent ou qui écrêtent sans rentrer en profondeur. Parce que les agriculteurs, encore une fois, ce qu'ils veulent, c'est qu'on s'attaque à la vraie difficulté que nous avons d'avoir laissé rentrer sur nos marchés des produits non concurrentiels, les poulets ukrainiens, par exemple, des produits carnés.
Le blé ukrainien.
Le blé, mais c'est surtout la question du
Brésil.
Blé pour la France. Le blé, c'est davantage pour les pays qui, eux, ont eu le courage de l'arrêter. La Hongrie ou la Pologne, pour des raisons idéologiques pour la Hongrie et des raisons profondément souveraine pour défendre l'agriculture polonaise. Donc la vraie question, c'est, in fine, quelle est notre marge de manœuvre? Est-ce qu'on a la possibilité de peser? Parce que tout ça ne se négocie pas en France, ça se négocie au niveau de la politique agricole commune. Je rappelle que la politique agricole commune, depuis 1965, est une politique qui se détermine au niveau de Bruxelles.
C'est vrai.
Relancée à partir de 1985.
Mais la France a le droit d'être contre.
Mais c'est pas la question d'être contre Adil à partir du moment où elle s'impose par le fait que c'est une politique commune.
Oui.
Comme son nom l'indique. Elle a aussi pris des engagements sur lesquels elle ne peut plus revenir aujourd'hui, parce que ça remet en question l'Europe dans sa globalité aussi, sur les échanges, sur les fameux échanges commerciaux aussi.
Elle dit en France un discours. Elle a. Nos responsables politiques, Marc Fesneau qui est devant le Berlamont à Bruxelles, dit un discours à Bruxelles qui n'est pas celui qui dit aux Français. Et c'est là où il y a un vrai problème. Mmh. On parlait de la responsabilité politique. Un responsable politique doit être en conformité avec un discours et une linéarité du discours. Quand des députés européens de Renew Europe votent le contraire des députés à l'Assemblée nationale, quand un ministre de l'Agriculture va contredire ce que dit son propre groupe au Parlement européen, là, ça pose un vrai problème de cohérence politique. Encore une fois, tout n'est pas lié à la question de la concurrence extérieure. Il y a effectivement les abus de positions dominantes, de grands industriels qui utilisent
le secteur de la distribution, tu parles du secteur de la
grande distribution. Et par rapport donc à la faiblesse liée à la capacité aussi des syndicats agricoles, ou l'incapacité plutôt des syndicats agricoles de se faire entendre. Je rappelle que la FNSEA n'est pas représentative de l'ensemble de l'agriculture française. Et c'est la raison pour laquelle ce mouvement...
Ça reste quand même le syndicat majoritaire.
Faisons un tour.
La colère. Ceux qui sont syndiqués, ils ne sont pas tous syndiqués.
S'il vous plaît, faisons un tour. Les agriculteurs français, rappelons-le, et belges d'ailleurs, bloquent la frontière à plusieurs endroits. Je le souligne pour ceux qui ne le savent pas encore. Oui, partout en Europe, bien sûr.
C'est un mouvement
qui regroupe tous les agriculteurs européens. Absolument. Déblocage, une colère, et puis les agriculteurs qui sont enragés.
Non, mais c'est ce qui prouve qu'il y a une problématique à Bruxelles concernant la politique commune agricole qu'il faut revoir de fond en comble, et effectivement tous ces aspects de libre-échange qui doivent être mis sur la table. Il faut, pour le Mercosur comme pour le reste, il faut se retirer des négociations. C'est pas juste attendre que ça s'arrête, qu'on arrête les négociations. La France doit se retirer de la table. Parce que si la France se retire de la table, ça voudra dire quelque chose à Bruxelles. C'est pas rien, la France, normalement.
Oui.
Donc il y a ça, et puis les agriculteurs au fond, ils attendent quand même des mesures fortes, comme par exemple une rémunération garantie. Aujourd'hui, ils n'ont aucune rémunération garantie. Donc ils peuvent vendre à perte, il y en a qui ne s'adressent pas de salaire, il y en a, vous savez combien, il y a un paysan sur deux qui se suicide tous les deux jours. Enfin, c'est quand même une folie de ne pas considérer ce mouvement social. Monsieur Macron n'a absolument pas arrêté son parcours. Il était en Inde, là, il est en Suède. Il continue alors qu'il y a une crise majeure qui se passe en France. Moi, je suis complètement sidérée par cette réaction. Je ne la comprends pas et je ne suis absolument pas d'accord. Monsieur Ferkan, vous avez le Premier ministre.
Le président doit quand même être là.
Le négociateur, c'est le chef de l'État.
Moi, je pense que les agriculteurs, les paysans, parce qu'on parle des agriculteurs, mais c'est aussi la paysannerie, c'est l'ensemble du monde paysan qui est concerné. Moi, je pense que d'ici, tous les chiffres le montrent, d'ici plus de 2030, il me semble, il faut vérifier, plus de 2030, vous avez 400 000 paysans
Qui vont arrêter leur activité, soit qu'ils partent en retraite, et il y aura personne pour récupérer leur.
On sait ça, mais que fait-on pour anticiper ça? 400 000 qui vont disparaître, et ceux qui partent entre temps, et plus ceux qui partent entre temps.
Ce qui est navrant là-dedans, c'est que, bien évidemment, Macron prend la mesure de ce qui se passe, mais je vais redire ce que j'ai dit la dernière fois, ce qui a déplu. Macron a été élu par des lobbies, par des hommes d'affaires, par des réseaux puissants, et ça on le sait très bien. Donc il a des comptes à rendre à ces gens-là en premier.
Je pensais qu'il était élu par les Français, moi.
Ben non, il a été très mal élu. Je pense que c'est le seul président de la Ve République qui a été aussi mal élu.
Dans un pays qui s'appelle une démocratie.
Oui, mais il a été élu avec une minorité.
Et que le peuple français.
Et paradoxalement, il a été élu avec une minorité.
Non, Philippe, vous le conseillez.
Il a été élu avec une minorité de vote. Oui. Donc c'est un président mal élu, la preuve. Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, il aura toujours du mal à appliquer ses lois et ses règles, parce qu'il y aura toujours une opposition par rapport à la fragmentation politique qui existe maintenant depuis quelques temps. Donc il ne pourra jamais mener une politique sereine, c'est impossible. Ce qui est malheureux, c'est que la détresse, en fin de compte, nous, à notre niveau, on en parle parce qu'on est des simples citoyens, même si certains le sont, sont politisés. Il est en décalage avec la réalité.
Non, mais la réalité, c'est que la politique régie nos vies peut rien faire contre.
Des agriculteurs, si ça ne va pas plus loin. La dernière fois, j'ai été maladroit en disant qu'il faut tout casser, mais c'est une façon de parler dans le sens où si on ne renverse pas tout sur la table,
donc ça va se
on n'aura rien
Bruxelles,
des politiques.
Ça, de
les politiques
c'est
ne
ça
respectent...
qu'il faut faire. Ça ne se décidera pas à Paris, mais c'est à Bruxelles que ça se décidera.
Il faut taper dans les deux camps.
Les
deux.
Et c'est l'élection ce qu'ils ont fait. Européenne va être décisive
ils vont à Paris
cette année.
Pour resserrer et imposer à Macron de les défendre de vive voix, parce qu'ils savent très bien qu'autrement,
les agriculteurs
ils ne seraient jamais capables de les défendre.
Attendent une décision, qu'elle se fasse à Bruxelles.
Ils attendent surtout que Macron soit leur porte-parole officielle. Mais le problème, c'est qu'on sait que ça dépasse l'aspect franco-français. Il y a aussi l'aspect européen, mais il y a aussi l'aspect mondial. Et franchement, je ne crois pas que Macron va vraiment tremper la chemise pour régler des problèmes qui perdurent depuis 30 ou 40 ans sur la politique de l'agriculture en France.
On se retrouve tout de suite après. Je vous donne la parole. Je ne vous ai pas oublié, Philippe Nadji.
Je coupe la parole à personne.
Oui, c'est vrai. J'ai vu. Vous n'avez pas interrompu Sabrina Loury.
On peut être démocrate et interrompre la parole d'une personne qui...
A tout de suite, vous n'avez pas resté avec nous. 0153483000, vous pouvez donner votre point de vue, notamment, et livrer votre sentiment. A tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. 19h-20h, les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Il est 19h40 précisément, et le débat continue, y compris pendant la pause, avec Sabrina Loury, avec Emmanuel Dupuis, avec Nadir Kaya, et enfin avec Philippe Nadji Boyaki, à qui je donne la parole, puisqu'on ne l'a pas du tout entendu, sur les agriculteurs et leur colère.
Leur colère, elle est plus que légitime, mais je pense que l'ensemble des Français se joint à moi, déjà premièrement pour présenter nos condoléances les plus sincères à la famille d'Alexandra et au monde de l'agriculture, ainsi que sa fille, bien sûr, Camille, de 11 ans. Tout à l'heure, on a parlé de l'Europe par rapport aux normes, en vérité. Il y a un double problème, et le problème européen va être compliqué. Parce que sur les accords de libre-échange, c'est en gros, on prend votre voiture, on prend vos avions, vos Airbus, vos hélicoptères, vos missiles, mais en contrepartie, vous nous prenez nos bœufs, etc. Sauf qu'effectivement, eux n'ont pas les mêmes normes, et donc tu as du bœuf qui arrive ici, qui n'est pas normé comme les nôtres, alors que nous, on leur demande de faire des efforts à nos agriculteurs pour... et d'un principe de précaution de santé publique, avant tout.
Tu veux dire, il n'y a pas les mêmes normes au niveau européen, déjà ?
Non, je entends parler du Mercosur, TAFTA, et parce qu'en plus, leur viande là-bas est nourrie à la farine animale, alors qu'ici, c'est interdit. Ils sont bourrés de testostérone, aux médicaments, etc., alors qu'ici, c'est interdit. Enfin, tu vois, donc il y a un déséquilibre réel. Mais c'est, OK, pas de souci, vous ne voulez pas prendre nos viandes, on ne va pas prendre vos voitures, on ne va pas vous prendre vos missiles, on ne va pas prendre vos avions, etc. Donc là, ça devient un petit peu compliqué au niveau de la balance commerciale internationale sur nos échanges. Mais en vérité, il y a un premier levier local qu'on peut faire et que personne n'a parlé. On a parlé un petit peu de la grande distribution et des entreprises de l'agroalimentation qui fait la transformation.
La grande distribution qui est dans le viseur.
Qui se gave, en fait.
Se gave énorme.
Voilà.
Mais attends, il y a un autre truc en amont, et c'est ça où c'est le plus fou. En premier, en réalité, t'as les coopératives qui viennent, qui achètent, qui fixent un prix plancher, un prix ultra bas.
C'est un regroupement d'agriculteurs.
Et c'est un regroupement d'agriculteurs, la coopérative, qui transforme, qui après passe par des intermédiaires, puis passe par des centrales, puis des gros agroalimentaires, comme Nestlé, Lactalis, etc., qui font la transformation des grands groupes, et qui, eux, ont des marges extraordinaires. Donc, moi, je suis désolé. Premièrement, c'est pas aux consommateurs de payer la note finale, mais deuxièmement, on ne peut pas vendre à perte. Je crois qu'il y a une loi qui nous interdit de vendre à perte. Pourquoi
c'est
on peut
aussi le capitalisme, tout ça.
Pourquoi ce qu'on propose.
Alors, l'attention va se régler où, la colère des agriculteurs, à Bruxelles ou à Paris?
Il faut qu'elle se règle. Mais à Paris, à Bruxelles, pas tout de suite, c'est pas possible.
Pourquoi
en tout cas,
tout
la
suite.
Première chose, c'est à Paris, disons, écoute, moi, un agriculteur qui fait un prix du litre qui lui revient à
40 centimes le litre de lait.
40 centimes, et on lui dit on te l'achète à 42, c'est du foutage de gueule. Tout simplement.
Il faut des prix.
Donc il faut des prix planchers.
Garantie.
Il faut de la justice, de la dignité.
Mais après, surtout, moi, je ne suis pas là pour culpabiliser les consommateurs, mais je voudrais surtout interpeller nos collectivités. Nos collectivités, elles doivent acheter français, elles doivent faire du patriotisme. Et c'est pas interdit de faire du patriotisme. C'est pas interdit d'acheter local. Nous, à la région Île-de-France,
il faut qu'ils soient aussi de qualité, il faut le dire aussi.
À la région, les produits français sont de très bonne qualité. À la région Île-de-France,
s'il vous plaît.
Valérie Pécresse a créé un label, le Made in Île-de-France, et c'est en priorité qu'on fait travailler les entreprises franciliennes.
Je voudrais qu'on parle de ce sujet parce que c'est quand même un sujet qui préoccupe beaucoup. C'est le ministère de l'Éducation, la ministre pardon de l'Éducation nationale, qui s'appelle Madame donc Amélie. Qu'est-ce que vous me regardez?
Ah, on arrête l'agriculture, c'est fini. On passe.
Pourquoi vous voulez dire quelque chose? Non, mais là il faut. Je vois le temps filer. Et puis il y a le quoi de neuf qui arrive et sur tout ça. La polémique Oudéa Castéra, vous savez, elle continue d'enfler. La ministre accuse les détracteurs de faire d'elle le symbole d'une caste privilégiée à battre. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, la diplomatie féminine
au final, moi, je pense que abattre est un peu fort. C'est, moi, je dirais pas abattre, je dirais pas ça, je n'irai pas jusque-là. Par contre, elle se définit bien. Une caste privilégiée, c'est tout à fait ce qu'elle représente, et ça ne représente pas forcément l'ensemble de populations qui sont dans les écoles. Donc, en même temps, on a des infos qui arrivent.
Le fil d'actualité qui tombe, c'est
pour
ça.
Elle est assez cinglante, cette phrase, quand même. Je refuse deux poids, deux mesures sur les gens qui travaillent. Donc, c'est ce que je disais. Il y a une différence entre les gilets jaunes et les gilets verts.
Vous faites référence à Gérard Darmanin.
Le ministre de l'Intérieur qui dit qu'il n'enverra pas les CRS, soi-disant, en mettant en avant le fait que là, il s'agissait de gens qui travaillaient, donnant l'impression que les gilets jaunes ne le faisaient pas.
Exact.
Alors que
la ministre,
c'est tout à fait, pas, c'est pas le cas. La ministre, je l'avais déjà dit la semaine dernière. Je pense qu'il faut qu'elle démissionne. Je ne sais pas quel est le résultat du remaniement, enfin la finalité du remaniement qui va se faire cette semaine. Est-ce qu'ils vont finalement la limoger ou pas? Moi, je pense qu'il faut qu'elle quitte ce ministère. Et puis un ministère de l'Éducation nationale couplé au sport, couplé, enfin là, ça n'a plus de sens. Moi, je l'ai déjà dit, il faut un ministre de plein exercice pour l'Éducation nationale. C'est la moindre des choses. Et je note qu'à la région, il y a eu 900 000 euros de données au lycée Stanislas. Il faut couper cette subvention. Mais voilà, donc tout ça, c'est pour privilégier une certaine caste qu'elle représente extrêmement bien. Et elle ne représente, en tout cas moi, je pense qu'elle ne me représente pas moi ni une certaine catégorie de population qui sont eux au fait dans les écoles publiques, parce que Macron, depuis qu'il est au pouvoir depuis 2017, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la casse du service public, et l'école n'est absolument pas épargnée. Je rappelle que demain il y a une grève nationale de l'Éducation nationale.
Donc une de plus. Des maîtresses. Merci pour nos enfants.
Voilà.
Qui vont pas avoir cantine.
Il faut soutenir les mouvements grèves.
Parce que le gouvernement ne réagit pas.
Que le reste
demain, moi, je perds une journée de travail.
Que le reste
Emmanuel Dupuy.
Oui, alors je crois qu'ici, personne ne peut vraiment défendre cette ministre. Alors moi, je ne suis pas certain. Enfin, moi, personnellement, je suis assez d'accord avec Sabrina, dont je ne partage pas les points de vue politiques. Je réagis en tant que citoyen, de manière assez cohérente. Madame, comme son nom l'indique, Oudéa Castéra, est l'épouse de Monsieur Oudéa. Monsieur Oudéa qui a été patron, président de la Société Générale, une des 400 fortunes françaises. Moi, ce qui me choque davantage,
c'est
la nomination de Madame...
Non, ce n'est pas un crime.
Le devient quand on est ministre des Sports et que la principale société avec laquelle il faut qu'on travaille sont les sociétés qui sont sponsors des Jeux Olympiques. Il ne vous aura pas échappé.
Les Jeux Olympiques ne sont pas de son ressort, ils sont du CIO.
Ah non, ils sont du ressort du Comité Olympique qui est sous l'autorité, pardon, du groupement interministériel, du groupement d'intérêt public, présidé
du
par Monsieur Estanguet.
COJOP.
Oui, qui est sous l'autorité du ministre du sport, d'autant plus que, si cela vous est échappé, il y a une dizaine de dossiers avec lesquels la ministre n'a pas le droit, ou sur lesquels la ministre n'a pas le droit de travailler, c'est ce qu'on appelle le déport. Donc le vrai problème, c'est qu'elle est empêchée de travailler sur les principaux dossiers avec lesquels elle devrait, au contraire, travailler. Je rappelle qu'elle fut présidente de la Fédération française de tennis. Elle a été auditionnée pour une rémunération qui ne correspondait pas au travail effectué. Alors, une ministre des Sports qui ne peut pas s'occuper d'un certain nombre de fédérations, qui ne peut pas travailler avec les principaux sponsors des Jeux Olympiques, alors qu'elle a elle-même dit qu'elle ne consacrerait, mais c'est déjà beaucoup, 15% de son temps aux activités donc de ce portefeuille ministériel, pose un problème. Après, ça a été très bien dit, Madame Oudéa Castéra s'enferme dans des éléments de langage qu'elle ne maîtrise plus, puisqu'elle parle du fait qu'elle serait la représentante d'une caste. Je n'ai pas entendu de critiques disant qu'elle faisait partie d'une caste. J'ai juste entendu des critiques d'un abus d'un ministre qui, alors qu'elle doit défendre le service public, dit que ce service public est défaillant. alors que l'on doit défendre la notion de l'intérêt général et que le principe de l'éducation soit partagé unanimement sur notre territoire, est quand même quelque chose qui se joue entre la rue de Notre-Dame des Prés,
Saint-Germain.
Je cherchais le nom de la rue.
Tu peux dire le sixième.
Le sixième,
tout le sixième, comprendra.
En fait. Sixième. Autour de Stanislas.
Avançons. Voilà. Saint-Jacques. Absolument. C'est-à-dire qu'il y a les en quelques mots, s'il vous plaît.
Moi, ça me fatigue un peu la politique parce que quand on voit un peu les stratégies, les critiques qu'on peut faire, les Français, en fin de compte, ce qu'ils veulent, notamment par rapport à la ministre, c'est qu'il y ait un ministre qui soit efficace. Aujourd'hui, l'éducation nationale, elle est défaillante depuis des années, comme l'agriculture, comme la santé, comme beaucoup de domaines en France aujourd'hui. Et on perd du temps avec des débats politiques à critiquer. Les Français, aujourd'hui, ils veulent des résultats. Et le problème, c'est qu'on perd du temps dans des débats politico-médiatico-idéologiques qui n'aboutissent à rien. Le temps passe. Macron, aujourd'hui, il ne fera rien parce qu'il est comme les autres présidents. Il a d'autres priorités. Moi, je le vois d'un point de vue syndicaliste, quand on a affaire à notre direction. C'est aussi simple que ça. Les syndicalistes ont des priorités qui ne sont pas celles de la direction. Et là, dans le cas de figure de la situation de façon générale, les Français ont des priorités qui ne sont pas celles de gouvernants. C'est aussi simple que ça. Donc, il y aura toujours des conflits comme ça qui vont nous faire perdre des années. Et on va s'apercevoir que les années passent. Et dans 30 ou 40 ans, on parlera encore de ces problèmes-là. Tant que les Français ne comprennent pas qu'il faut tout renverser sur la table et qu'il faut s'impliquer politiquement à tous les niveaux et en permanence, pas le temps d'une élection.
Philippe Nadjiboye, qui alors qu'est-ce qu'on peut dire sur la ministre de l'Éducation nationale. Ouais.
Une année aussi importante que les Jeux Olympiques, tu ne peux pas être ministre de l'Éducation et des Sports. Ce n'est pas possible. Effectivement, il y a un départ obligatoire parce qu'il y a un conflit d'intérêts.
Une partie des gens qui réclament sa démission.
Non, je ne réclame pas sa démission. Moi, je n'ai jamais réclamé sa démission. Je dis qu'elle a dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Je suis désolé, je connais pas une personne qui a pas envie de mettre son enfant dans les écoles privées.
Ah bah moi certainement pas.
Moi je connais pas, je connais pas une personne.
Non non, pas compris, moi. Moi j'y suis pas.
Mais toi, mais je vous ai pas interrompu, c'est impossible de débattre avec ces gens-là. Je ne connais pas une personne, qui ne souhaite pas le mieux pour son enfant. Clairement.
Ah d'accord, le mieux pour son enfant.
Le mieux pour son enfant, et aujourd'hui je suis désolé, le mieux.
C'est différent déjà.
Sabrina Nouri, on vous a jamais interrompu, c'est ça là, le vrai visage de la France Insoumise. C'est pas parce que vous avez un visage d'ange que vous avez un comportement de diable, et ça c'est juste impossible et inacceptable. Je suis en train de dire la chose suivante, qu'elle a eu une erreur d'élément de langage, et ça c'est complètement stupide de sa part, parce que son enfant malheureusement a été que 6 mois en maternelle, donc en petite section, dire que c'était catastrophique, donc ça c'est pas possible, et c'est insulter les enseignants. Il faut donner les mêmes moyens à l'école publique, d'autant plus que moi mes enfants sont en Ré+, donc tout va bien, hein, je vous rassure. Mais quand on parlait de Stanislas, je vous assure qu'il n'y a pas que des enfants bourgeois qui vont là-bas, et donc par conséquent nous devons,
je lance le coin neuf,
au niveau national et même au niveau de la région, soutenir tous les établissements.
Mais le coin neuf tout de suite, c'est parti pour pas qu'on se mette en retard.
Les informés. Le quoi de neuf.
Le quoi de neuf, comme chaque mercredi, c'est avec elle, professeur, le docteur Majid Sioussine. Bonjour docteur.
Bonjour mon cher Adil.
Comment allez-vous?
Ça va, écoutez, vous avez failli écorcher mon nom quand même.
Non, j'ai glissé, c'est tout. Ça s'appelle une glissade. Je fais du ski. Je vous donne la parole et je vous lance, comme chaque mercredi évidemment, votre billet d'humeur autour de l'actualité.
Bah écoutez, mon cher Adil, réarmer était un verbe conventionnel que tout le monde connaît. Desmicard disait là, Gabriel Attal.
Vous avez glissé vous aussi.
Moi, j'ai glissé, je me suis cassé la cheville, vous le savez bien.
C'est vrai.
Gabriel Attal s'aventure sur les terres de l'Académie française en enrichissant le dictionnaire, ce qui est normalement le privilège des immortels. Ça me rappelle d'ailleurs ma professeure de français en première qui me disait « Madji, attendez d'être un grand écrivain avant de faire des néologismes. » Peu importe, tout le monde attend.
La prof, ah là là, ah, c'est terrible d'entendre ça, c'est terrible. Ça me fait rire. Mais c'était souvent ça quand on était gamin au collège. Les profs qui balançaient comme ça des phrases toutes faites. Allez-y, docteur, parce que franchement, ça me rappelle des choses.
Peu importe, tout le monde a compris ce qu'il voulait dire. Il reprend en fait la phrase de Guizot, le ministre du roi Louis-Philippe, et non pas du roi Macron. Enrichissez-vous. Phrase qui a provoqué beaucoup de polémiques et qu'il complétera d'ailleurs plus tard en bon protestant par « Enrichissez-vous, par le travail et la probité ». Je dis ça pour vous, Adil. Qui pouvez-vous croire tout permis, vous qui déjà êtes installé à Monaco et qui vous y rendez après chaque émission en jet privé payé par le Qatar?
Qu'est-ce que j'aurais kiffé, justement, si c'était tellement vrai. Mais bon, c'est pas ça la vraie vie.
Et c'est là qu'on apprend tout de même que dans certaines branches, certains employés sont payés en dessous du SMIC.
ce qui est tout de même incroyable dans un pays où la CGT bouscule toute la France tous les 4 matins, où les agriculteurs déversent du lisier sur les préfectures. Mais qu'ont donc attendu les présidents Sarkozy, Hollande et Macron pour faire disparaître cette anomalie? Mais aussi, qu'ont attendu tous les leaders syndicaux pour se déchaîner à juste titre contre cette anomalie? C'est là où on voit que finalement, on se rend compte que tout le monde joue une espèce de jeu convenu et rien compris. Et c'est peut-être ce que voulait dire M. Wauquiez, président de la région Rhône-Alpes, ancien ministre et candidat putatif des Républicains à la présidentielle de 2027, qui nous promet de bons moments, puisqu'il reprend le vocabulaire de Donald Trump et qu'il jette le discrédit sur des institutions respectables, le Conseil constitutionnel en l'espèce, en parlant d'État profond. Lui qui a fait normal sup, a été député à 29 ans, ministre à 37, fils d'un banquier, comment dire, ça me rappelle cette bonne vieille phrase, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Pour finir le commentaire, je rappellerai qu'il fut major de promotion à l'ENA de la promotion bien nommée Nelson Mandela. No comment. Je ne connais pas de meilleure définition du cynisme que ceux qui sont issus du meilleur monde et qui, par intérêt, se mettent au niveau de la conversation de comptoir, ce qui est mon niveau à moi, puisque j'ai fait vœu de ne pas aller au-delà pour me casser la tête en me cognant sur le plafond de verre. En tout cas, c'est important, c'est de savoir si les agriculteurs vont mettre à sac Rungis, envahir Paris. Prions pour qu'ils ne renversent pas du fumier partout dans les rues de Paris, car Anne Hidalgo se charge déjà de la rendre assez sale comme ça. En tout cas, les agriculteurs sont des représentants de cette France qui travaille, et parfois un peu pressurisés injustement. Les Laurent Wauquiez et autres jeteurs d'huile sur le feu pourraient un jour les capter et prendre le pouvoir sur un mode radical. Je ne sais pas si les bourgeois de Guizot dans les palais de la République s'en rendent bien compte.
Merci mon cher docteur, quelle plume. À la semaine prochaine sans faute.
Avec joie, mon cher.
Avec plaisir partagé. Merci pour ce billet d'humeur, toujours aussi riche et dense, autour de l'actualité. Sabrina Nourri, la présidente de Diplomatie Féminine, à la semaine prochaine, et les Insoumis, au plaisir.
Au plaisir, et motion de censure lundi.
Allez, oui, c'est vrai. Des Insoumis.
Et vous voterez celle de droite ?
Emmanuel Dupuis, le président d'Ellipseux, à bientôt.
Oui, peut-être, motion de censure des Républicains aussi.
Exactement. Le président de Nadir Kaya, à bientôt.
Bonne soirée à tous.
Le Conseil régional et le co-porte-parole de l'Europe, de l'écologie, au centre, Philippe Ndjiboyaki, au plaisir.
Au plaisir, à très vite.
À la réalisation, c'était Solal. Bilan Nenman, tout de suite, c'est maintenant. Vanessa, ensuite, après, à 21h. Demain, c'est Kim. Quant à moi, demain, avec autant de plaisir, je vous laisse. Je fais vite parce qu'il faut rendre l'antenne très, très vite. Et surtout, on ne
lâche rien.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.